pense que ce qui est en jeu lors de ces élections, c'est la continuité avec le programme que Macky Sall a développé depuis sa prise de pouvoir il y a 7 ans, ou une rupture qui pourrait annoncer une autre façon d'engager le développement du Sénégal. Parce qu'il y a derrière les 5 candidatures une perception assez différente de la réalité sénégalaise selon que l'on est du pouvoir ou selon que l'on est de l'opposition, même s'il reste en grande majorité des libéraux.
Quelle est la vraie perception et la fausse?
La perception, vous savez, il y a par exemple dans l'opposition une candidature qui me paraît assez originale. C'est une candidature jeune. Le personnage est nouveau, novice en politique, il a 44 ans et il propose une sorte de nationalisme économique qui par le passé avait été proposé par des gens comme Serhanta Diop. Mais c'est ce nationalisme qu'il propose. Il va même jusqu'à demander la sortie du Sénégal du franc CFA. Il demande par exemple à ce que les gens payent moins d'impôts, à ce que l'accent soit mis sur les petites et moyennes entreprises, qu'on donne de la place aux Sénégalais dans le système. Alors que les autres, qui sont des libéraux en grande majorité, proposent que l'on fasse jouer les règles de l'économie libérale, que l'on mette l'accent sur les infrastructures, les investissements, l'éducation. Donc vous voyez qu'il y a une différence de perception selon l'âge, mais aussi selon le courant politique auquel on appartient. Donc il y a vraiment un enjeu de taille. C'est presque une transition vers une nouvelle génération de politiciens. Et c'est ça qui est un élément important dans le débat actuel.
Il y a beaucoup d'attentes, notamment. Est-ce que tous les projets de société qui sont présentés et défendus, est-ce que ça répond réellement aux besoins réels des Sénégalais?
Bon, vous savez, la période électorale est toujours une période où les gens font les promesses parfois les plus intéressantes, parfois les plus farfelues et parfois aussi les plus irréalistes. Mais ce qui caractérise cette élection en particulier, c'est qu'il y a quelqu'un qui défend un bilan, qui a mis en œuvre un projet que le plan Sénégal émergent. Il veut que le pays continue dans cette lancée. Il a construit, il y a des infrastructures, il y a d'autres. Alors qu'il y en a d'autres qui pensent que la chose la plus importante pour le Sénégal, c'est d'abord une réforme institutionnelle. On a une présidence qui pratiquement occupe tout le terrain. Le président est omniscient, qui décide de tout. Et que cela ne peut pas aider à faire avancer la démocratie sénégalaise, à faire avancer le développement dans le pays. On veut qu'il y ait une plus grande décentralisation parce que il y a Dakar, la région du Cap-Vert et le reste du pays, qu'il y ait un équilibre. Il y en a qui pensent que c'est l'agriculture qui doit être le levier du développement, alors que d'autres pensent qu'il faut construire des zones franches. La transparence de la gestion des affaires public est aussi en jeu. Donc vous voyez que pendant que dans ce débat, il y a quand même des choses assez intéressantes qui sont posées et qui, quand on les met en lien avec ce qui se passe actuellement au Sénégal, montrent que les électeurs qui seront appelés à choisir ont vraiment un choix important à faire parce que le Sénégal, concrètement, n'est pas un pays riche, c'est un pays pauvre. La pauvreté, malgré les chiffres mirobolants de 6% que l'économie semble projeter ne se réalise pas concrètement sur le terrain. Le pays est endetté, très sévèrement endetté. En plus, le pays a une jeunesse, mais qui risque, si ces problèmes ne sont pas réglés, de devenir une véritable bombe. Plus de 60% de la population du Sénégal a moins de 35 ans. Il faut trouver à cette jeunesse des emplois. Mais ces emplois ne sont pas nombreux. Dans le Macky Sall, qui est le président sortant il y a 7 ans, avait proposé 500 000 emplois. Aujourd'hui, il propose 1 million d'emplois, mais 1 million d'emplois sur une population jeune de près de 7 millions, vous voyez que le tour n'est pas joué. Donc, les enjeux sont énormes. Et à celui qui pourra le plus convaincre les électeurs sur ses choix, économiques, sur ses choix culturels, ses choix politiques. Je pense que c'est à celui-là que l'électeur, c'est à cette personne qui aura certainement le plus grand nombre de voix. Et personnellement, je pense que les jeux ne sont pas encore faits. C'est une élection très ouverte et on verra dimanche comment les choses vont se passer.
Pas de favoris?
Bon, bien sûr, quand on est président sortant, et qu'on détient les rênes du pouvoir, on part avec beaucoup de faveur, d'autant plus que ces derniers mois, l'actuel président a passé une bonne partie de son temps à inaugurer des autoroutes, à lancer de nouveaux projets d'aéroports, beaucoup, beaucoup de projets. Mais vous savez, les projets, c'est pas dans l'immédiat, c'est pour le futur. Et les autres aussi ont dénoncé beaucoup de pratiques. La corruption n'a pas été totalement éliminée dans le pays. Les questions économiques restent des questions urgentes. L'appauvrissement de la population est réel, même si beaucoup d'efforts ont été réalisés par les autorités. Et donc, il y a une bonne partie de la population qui est insatisfaite des résultats obtenus. Et donc, on va voir comment cette population-là va réagir par rapport aux propositions qui sont faites. Comme je vous l'ai dit, l'enjeu, c'est comment régler les problèmes de la jeunesse. L'enjeu, c'est comment gérer l'économie du Sénégal qui va, dans 5 ou 6 ans, connaître un boom pétrolier, un boom gazier. Et donc, vous voyez que ça attise les appétits, mais encore faut-il être très concret dans la manière de gérer tout cela. Et je pense que les candidats ont proposé des stratégies. Maintenant, c'est à la population de se décider. J'ai vu les campagnes des différents candidats, mais il y a foule presque partout. Hein. Donc, tout donne à penser que les dés ne sont pas encore joués et que, bien sûr, l'autre part avec une petite longueur d'avance, mais c'est à l'électorat de décider si on doit aller au deuxième tour ou pas. Aujourd'hui, je lisais dans la presse quelqu'un dire que mathématiquement, on devrait avoir un deuxième tour. Et personnellement, je pense qu'un deuxième tour, ce serait vraiment sain pour la démocratie sénégalaise parce que c'est à travers ce genre de procédure que la démocratie de ce pays arrivera à maturité, que les gens feront les choix les plus importants. Une première phase où on élimine et une deuxième phase où vraiment maintenant on décide. Toutes les démocraties qui se sont renforcées les décennies passées sont passées par ce chemin et je pense que ce serait bon pour la démocratie sénégalaise qu'on aille vers un deuxième tour et ensuite maintenant qu'il y ait un débat télévisé, que les gens discutent les programmes de façon très approfondie et que bon, la population juge par les propositions et par les faits.
Au regard justement du niveau du débat ou des projets de société, peut-on dire que l'électeur sénégalais est devenu très exigeant et qu'il est pris au sérieux?
Très exigeant, je ne m'avancerai pas trop, mais je sais que les gens suivent la campagne de très près. Tout le monde jette un coup d'œil, il y a des débats qui sont organisés par la société civile. Cet après-midi, par exemple, dans l'une des grandes places du pays, 4 candidats de l'opposition sont venus répondre aux questions du public et de la société civile. Donc, il y a eu un engouement énorme pour cet événement. Et donc, ça montre que les gens sont intéressés par les propositions qui leur sont faites. Maintenant, comment ces informations sont relayées à l'intérieur du pays? Comment les gens vont digérer tout cela? Bon, c'est pas aussi facile, mais je pense que on a encore 3 à 4 jours pour permettre aux gens de vraiment faire leur choix. Et ça, c'est une très très bonne chose pour la démocratie sénégalaise. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, l'électorat est assez jeune et donc elle apprendra à vraiment exercer la démocratie de cette façon. Et donc ce sera un bon plus pour le futur de la démocratie au Sénégal.
Vous avez parlé du développement des infrastructures sous Macky Sall. Qu'en est-il du panier de la ménagère?
C'est justement là le grand problème, parce que on a misé beaucoup sur les infrastructures, on a misé beaucoup sur des investissements assez lourds, le train électrique, l'électricité, tout ça c'est quand même des choses importantes dans un pays qui veut avancer. Malheureusement, l'économie sénégalaise n'est pas une économie qui est capable de produire beaucoup d'emplois. Ce n'est pas une économie où les petites et moyennes entreprises jouent un rôle encore important. Et donc, cela crée pratiquement une grande fracture à l'intérieur de la société, où vous avez un milieu rural qui est relativement très, très, très pauvre et qui regroupe la majorité de la population, et un milieu urbain où vous avez des gens qui sont riches et des gens qui sont très pauvres. Et quand vous regardez les chiffres que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale ou le FMI donnent en ce qui concerne la pauvreté au Sénégal, et quand on sait par exemple que cette année, le pays a connu un début de famine dans le nord parce qu'il n'a pas beaucoup plu, il y a lieu de se poser beaucoup de questions sur cette économie qui n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, et cela pose de sérieux problèmes. Le Sénégal a doublé sa production de riz. N'empêche, ce n'est pas tous les Sénégalais qui mangent le riz à leur faim. Et puis bon, c'est ça les problèmes réels des Sénégalais qui vont départager les candidats, parce que selon que les gens proposent des solutions claires à l'électorat, bon, l'électorat se décidera. Et voilà vraiment le cœur, l'enjeu de cette élection. Comment résoudre les problèmes des Sénégalais?
Chaque élection est toujours subjective, mais quand vous évaluez le bilan du président sortant, comment vous l'estimez? Largement positif? Positif? Quelles sont les faiblesses?
Sur certains points, très positif. Au moment où il prenait le pouvoir, par exemple, le Sénégal était pratiquement tout noir. On n'avait pas de courant, on n'avait pas d'électricité. En 7 ans, le Sénégal commence à exporter de l'électricité. C'est déjà une bonne chose. Il a fait beaucoup d'investissements dans des secteurs tels que l'agriculture, l'élevage. Mais ces investissements-là ne sont pas aussi suffisants pour vraiment faire décoller la machine économique. Le Sénégal est un pays très peu industrialisé. Les petites et moyennes entreprises, pendant la durée de son mandat, ont beaucoup souffert. L'État est toujours un État partisan. Donc, les contrats ont été gérés d'une certaine manière qui ne satisfait pas tout le monde. Il n'y a pas eu beaucoup de transparence dans la gestion des ressources. Il n'y a eu que au plan de renforcement de la démocratie, par exemple, le Parlement n'a pas servi à grand-chose. C'était un Parlement où il y avait une majorité écrasante du parti au pouvoir, et donc il faisait tout ce qu'il voulait. Et ça, ce n'est pas aussi de nature à renforcer la démocratie. Et la vraie tache noire, c'est qu'il y a eu des arrestations sous le couvert de la transparence, de la reddition des comptes pour certains, ont ressemblé beaucoup à l'élimination d'adversaires qui étaient, à l'élimination de concurrents qui étaient vraiment très sérieux, comme le fils de l'ancien président, comme le maire de Dakar. Et ça, ce sont des choses qui ont beaucoup entaché la démocratie sénégalaise. Et quoi que Macky Sall puisse faire, même s'il gagne l'élection, cela restera encore une tache noire dans sa manière de diriger le Sénégal pendant ces dernières années. Et puis, bon, cet aspect aussi est une tendance lourde dans les pays africains. Hein. Vous avez vu dans un pays comme le Bénin, où on élimine le candidat potentiel. En Guinée, c'est ce que l'on essaie de faire. Donc, il y a des pratiques qui sont quand même qui ne sont pas en phase avec non seulement l'image que le pays a dans le monde, mais aussi avec ce que le pays se propose d'être dans le concert des nations en Afrique. Et ça, c'est vraiment ce sont les aspects que, qui ne sont pas très, très, très reluisants dans le mandat de Macky Sall.
Mais au Sénégal, la vérité des urnes l'emporte toujours. On ne parle pas souvent de fraude, ce qui est rare sur le continent.
Oui, il peut y avoir ça et là des accusations, comme à l'heure actuelle, le ministre de l'Intérieur, qui est l'organisateur des élections, a eu ces phrases malheureuses en disant qu'il ferait tout pour que son candidat gagne et que toute personne qui est susceptible de contribuer à cela, il pourrait l'aider. Mais bon, on pourrait mettre ça sur le compte des propos de politiciens. Toujours est-il que le Sénégal a quand même fait l'expérience de deux alternances politiques, ce qui montre qu'il y a une certaine maturité au niveau de l'électorat. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour tous ceux qui ont observé cette campagne électorale, on se rend compte que les deux ne sont pas faits. Il n'est pas clair et net que quelqu'un gagnera cette élection. Et ça, c'est quand même une excellente chose pour la démocratie sénégalaise, parce que c'est de cette manière qu'on arrive toujours à faire avancer la démocratie dans nos pays. Parce que si dès le départ on sait qu'il y a un vainqueur, ça ne sert à rien d'organiser une élection. Mais ici, tout le monde a le sentiment vraiment que rien n'est encore joué et que ces trois prochains jours, les politiciens feront bien de continuer à convaincre les électeurs, parce que ceci risque de leur apporter quelques surprises.
Il n'y a pas risque de résurgence de violence qu'on a vu pendant la campagne?
Il y a eu un peu de violence, c'est vrai, entre les caravanes de partis qui a causé des morts, par exemple. Il y a eu des morts à Ziguinchor, il y a eu des morts dans la région de Tamba. Le seul risque, à mon avis, qui existe par rapport au jour de l'élection, c'est qu'il y a eu la création de nouveaux bureaux de vote. Il y a eu donc des changements de bureaux de vote pour beaucoup d'électeurs. On parle de presque 600 000 électeurs, à peu près le dixième du corps électoral. Et beaucoup de ces électeurs ne savent pas jusqu'à présent où est-ce qu'ils pourront retrouver leur carte et où est-ce qu'ils pourront voter. Ça risque de créer un peu de grabuge pendant cette journée. Et ça peut poser des troubles entre candidats. Et ce n'est que cet aspect-là que je vois comme étant un aspect difficile pour le jour de l'élection, parce que des gens mécontents peuvent commencer à exprimer leur mécontentement. Et puisque les services de sécurité sont sur le qui-vive et que le parti au pouvoir a averti tout le monde qu'il ne laissera aucune forme de violence ou de contestation prospérer, donc vous voyez que ça risque parfois de poser quelques petits problèmes.
Et comment vous appréciez le comportement de l'ancien président Abdoulaye Wade?
Bon, vous savez, Wade est mécontent par le fait que son fils n'a pas pu être retenu comme candidat à l'élection. Il a menacé, mais pour nous qui sommes un peu familiers de la vie politique sénégalaise, on peut dire que Wade n'a fait que du wadisme, quoi. C'est-à-dire menacer, mais bon, sans que cela ne puisse donner de conséquences au plan pratique. Wade a toujours utilisé ces méthodes-là comme un moyen de pression et un moyen de négocier avec les autorités. Bon, depuis qu'il est revenu au Sénégal, qu'il a rencontré le calife, un chef religieux influent dans le pays, à savoir le calife de sa communauté religieuse, il est allé à Conakry rendre visite au président guinéen, qui semble-t-il sert en tout cas de facilitateur dans les négociations avec l'État. Il semble avoir mis beaucoup d'eau dans son thé, donc on espère qu'il gardera cette attitude jusqu'au jour de l'élection, jusqu'à la fin de l'élection. Aujourd'hui, on pensait que la Cour de justice de la CEDEAO allait donner son verdict dans l'affaire qui oppose son fils à l'État. Malheureusement, le verdict a été renvoyé jusqu'au 4 mars, donc ce qui fait qu'il n'a plus d'arguments vraiment de poids pour imposer un bras de fer à l'État. Donc, on espère qu'il va savoir raison garder.
Un mot sur le Nigeria qui tient son élection samedi.
Oui, ça c'est quelque chose de très important en Afrique de l'Ouest parce que le Nigeria c'est vraiment la puissance régionale. C'est celle qui donne la direction pratiquement au sein de la CDAO. C'est la grande puissance africaine au plan économique et au plan politique. Et si le Nigeria tousse, c'est nous tous qui éternuons. Donc, nous avons tous de bonnes raisons d'espérer que les élections se passeront très bien demain, samedi, et que il n'y aura pas de violence et que le vainqueur félicitera le vaincu s'il n'y a pas de deuxième tour, bien sûr. Mais on espère, en tout cas pour le moment, avec toutes les informations qu'on a, que tout se passera très bien parce qu'il y avait des problèmes de logistique. On a demandé une semaine de plus pour gérer ces problèmes de logistique. Donc maintenant, rien ne s'oppose à ce que les gens aillent aux urnes pour vraiment élire leur président dans les conditions les meilleures. Le président vient de décréter demain comme jour férié pour permettre à tous les Nigérians de voyager pour aller voter là où ils veulent. Donc je pense que toutes les conditions sont réunies pour que l'élection se passe très très bien.